Nous sommes mercredi 19 juin, bon réveillé, bon courage, il est 6h. France Bleu Paris. Les infos, Johanna Yakin. Beaucoup de curieux attendus au tribunal correctionnel de Paris aujourd'hui.
Et oui, pour le tout dernier jour du procès des Balkany, place à la plaidoirie de Maître Dupont-Moretti, spectacle garanti. Inscrire son enfant à la cantine, rien de compliqué a priori, mais pour les parents d'enfants handicapés, c'est la croix et la bannière. À Morigny-Champigny, trois enfants handicapés ne peuvent pas manger avec leurs camarades. Et puis en Essonne, on vient d'inaugurer un tout nouveau laboratoire d'essai pour les véhicules autonomes. France Bleu Paris s'est rendu sur ce circuit de Montlhéry qui teste les voitures sans conducteur. La météo, Robin ?
Eh ben, ça va être pluvieux aujourd'hui. On aura des orages normalement dans l'après-midi. Ce matin, on a pour l'instant du soleil. Profitons-en. Dites-nous quelle température vous avez ce matin, quelles sont les conditions météo chez vous en Ile-de-France sur la page Facebook France Bleu Paris et vos messages. On les lit avant 9h.
France Bleu Paris matin.
C'est le tout dernier jour du procès des Balkany.
Et il risque d'y avoir pas mal de monde dans la salle du tribunal correctionnel de Paris. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'avocat star, Maître Éric Dupont-Moretti, qui s'exprimera. L'avocat de Patrick Balkany va plaider et tout tenter pour défendre le maire de Levallois, Sylvie Charbonnier.
Et oui, et après les envolées lyriques de Patrick Balkany, dont la voix rocailleuse a largement retenti tout au long de ce procès, ce sont maintenant celles de son avocat que l'on attend. Éric Dupont-Moretti, qui ne manquera sûrement pas de rappeler combien le maire de Levallois est aimé de ses administrés, tout ce qu'il a fait pour sa ville, en oubliant bien sûr l'endettement record, d'affirmer que tout l'argent placé, caché, blanchi, était en fait de l'argent familial, non déclaré, ça il le reconnaît. C'est d'ailleurs ce qu'affirme lui-même Patrick Balkany, qui n'a jamais manqué de clamer qu'il n'avait jamais détourné un seul centime d'argent public, que tout provenait de l'héritage de son père, juif ancien déporté, qui avait placé des réserves un peu partout pour le cas où. Maître Dupont-Moretti ne manquera pas non plus de mettre en garde contre tout acharnement qui voudrait faire de son client la victime expiatoire de l'ancien monde politique, mettre en garde contre le symbole qu'il représente. Donc si on résume, pour la fraude fiscale, oui, l'avocat va l'admettre, mais la corruption, non. Et c'est bien sûr la corruption qui risque de coûter le plus cher à l'élu.
Et la semaine dernière, le parquet national financier a requis 7 ans de prison ferme et 10 ans d'inéligibilité pour Patrick Balkany. Le chauffard de Lorient a-t-il eu un complice pour tenir une cavale de 9 jours? C'est l'une des questions que l'on se pose ce matin après que le conducteur qui a tué un enfant de 9 ans a été arrêté et mis en examen. Il a avoué les faits, mais l'enquête va aussi chercher à comprendre comment il a pu rester caché aussi longtemps. La sortie de la synagogue rue Moufle dans le 11e arrondissement de Paris est décidément bien risquée. Hier vers 19h, une femme de 79 ans a reçu une boule de pétanque sur la tête alors qu'elle sortait de l'édifice religieux. Ses jours ne sont pas en danger, mais elle présentait un hématome et une plaie saignante. La veille, des fidèles avaient déjà reçu un seau d'eau sur la tête.
Vent de panique hier soir dans un TGV qui faisait Dax-Paris.
Vers 19h30, un contrôleur de la SNCF a été agressé au couteau par une femme qui a tenté de le poignarder. Ça s'est passé alors que le train était arrêté dans les Landes. La femme a été interpellée et le contrôleur est sain et sauf. Mais si à tout hasard vous étiez dans ce train en direction de Paris, sachez que vous pouvez bénéficier d'un soutien psychologique mis en place par la SNCF. Côté transport francilien, c'était la grosse galère pour des passagers du RER D hier soir. À l'heure où beaucoup rentraient du travail, certains passagers sont restés bloqués près de 3 heures. C'est un accident de personne à Brunois qui a semé la pagaille.
En Essonne, des enfants handicapés ne peuvent pas manger à la cantine.
À Morigny-Champigny, des parents bataillent en ce moment parce que, faute de personnel spécialisé, leurs enfants, trisomiques ou handicapés moteurs, ne peuvent pas manger avec leurs petits copains à la cantine. Et ne croyez pas que c'est un cas exceptionnel. Au contraire, c'est très fréquent, explique Bénédicte Kell. Elle est conseillère éducation-famille pour l'association APE. France Handicap.
Majoritairement, c'est les problèmes de cantine. Les deux situations qu'on a, c'est les tarifs de cantine appliqués à des enfants qui sont accompagnés par un dispositif ULIS, une unité localisée pour l'inclusion scolaire, qui du coup vont être sur une commune qui n'est pas leur commune de résidence et se voient appliquer à le tarif de cantine extérieur, donc qui en général est le plus élevé, alors que c'est pas de leur fait, c'est parce que dans leur commune, il n'y a pas de dispositif ULIS. Le deuxième cas figure, c'est celui effectivement que vit cette famille, qui est un jeu de ping-pong entre commune et État sur la prise en charge financière d'un accompagnant sur le temps de cantine.
Les enfants handicapés qui ne peuvent pas manger à la cantine en Île-de-France, on en reparle en longueur à 7h45 sur France Bleu Paris. C'est le dossier de la rédaction ce matin. Eux veulent plus de moyens pour la Seine-Saint-Denis. Des syndicats vont manifester ce midi devant la préfecture du 93. Ils demandent à l'État un plan d'urgence pour le département le plus pauvre de France. On en reparle avec notre invité à 7h15. Coup dur pour les chômeurs. Le gouvernement serre la vis. À partir du 1er novembre, pour toucher des indemnités chômage, il faudra notamment avoir travaillé 6 mois sur les derniers 24 mois au lieu de 4 sur 28. Les syndicats expriment leur colère.
Des véhicules autonomes sont testés en Essonne.
Sur le circuit de Montlhéry, un centre d'expérimentation ultra moderne a été inauguré par le ministre en personne. 12 km de pistes pour tester les véhicules autonomes et connectés du futur, Valentin Dunat.
Alors autant vous le dire tout de suite, hein, la France n'a pas encore inventé la voiture qui fait tout toute seule, on y va étape par étape. Prenons un exemple concret de voiture connectée qu'on pourra bientôt voir dans le commerce. Pour ça, je rentre dans une voiture avec plein de câbles à l'intérieur. Au volant, Rebia Bacha, elle est architecte connectivité chez Renault. On fait quelques mètres et là, sur le tableau de bord, un voyant s'allume.
Cette alerte donc indique qu'une voiture est garée sur le bas-côté en allumant ses feux de détresse. À la différence de Waze, l'information elle est générée automatiquement, sans intervention du conducteur, au bout de 10 millisecondes.
Les voitures sont donc capables de communiquer entre elles, mais imaginons il y a un souci dans le réseau, une cyberattaque qui fait tout bugger. Eh bien ça, c'est testé ici par la société Utaxeram, son président Laurent Benoît.
Lorsque les véhicules vont être connectés, le risque c'est que la liaison soit attaquée et que du coup, il y ait un risque de fonctionnalité au niveau du véhicule. Eh bien on est en train de mettre au point des essais de cybersécurité pour vérifier que ça marche bien et pour pouvoir après déployer ce type de technologie.
En fait, ici, on teste tout ce qui n'est pas normal. Des attaques informatiques, des chaussées dégradées, sous la pluie, avec un trafic dense. Il faut dire que les constructeurs investissent en ce moment des milliards pour rattraper leur retard.
Oui, un gros retard parce qu'à titre de comparaison, Google a déjà fait 18 millions de kilomètres avec sa voiture autonome. Et puis la jeune femme qui accuse Neymar de viol a été de nouveau entendue hier au Brésil. La police lui a notamment demandé de fournir son téléphone portable pour faire des expertises, mais elle a indiqué l'avoir perdu après sa première déposition.